Le temps de la passion, donc, tel que commenté par le Missel quotidien complet des éditions Sainte-Madeleine du Barou, à la page 358. Jusqu'à présent, l'Église s'occupait surtout de l'instruction des catéchumènes et des pénitents. Les catéchumènes, ceux qui vont recevoir le baptême à Pâques, et les pénitents, ceux qui sont déjà baptisés et qui sont dans le combat spirituel et qui vont faire une bonne confession. Toute son attention va désormais se concentrer maintenant sur le Sauveur et sa passion. C'était une partie en quelque sorte morale, avec des examens de conscience, avec des reproches, avec des encouragements. Mais là maintenant, on va parler que de l'innocent. Pour nous faire pitié, oui. Ce mot vient du latin passio qui veut dire souffrance. Plutôt passivité. Oui. Quels sont les thèmes de ce temps de la passion? Trois thèmes dominent ce temps. Le Christ est rejeté par son peuple. Et donc, au lieu de nous omnibiler sur les Juifs, il est bien évident que ces textes ne parlent pas seulement de ce rejet mystique qui, à la fin des temps, sera une conversion du peuple juif, qui sera manifestée face à l'Antéchrist, avec un rejet de la messianité de l'Antéchrist qui pourtant sera maître du monde à Jérusalem, mais seulement au nom de l'avortement, de l'euthanasie et de la débauche, donc et de l'amour, n'est-ce pas? Donc là, les juifs pieux vont dire, mais ça c'est pas ce que nous a dit Moïse, hein. Mais alors, si c'est pas lui le Messie, qui est-ce? Devons-nous attendre un autre? Et quand comme ils commenceront à se faire aussi emprisonner ou reprocher pour telle ou telle raison, homophobie et compagnie, regardez ce qui se passe en ce moment. Vous avez, place de la République, une manifestation contre le gouvernement algérien. Moi, j'ai discuté avec une franco-algérienne qui m'a dit, nous, ce sont des crapules, ce sont des voleurs, mais ils se remplissent les poches, en fait, en Algérie et ailleurs, ils achètent des choses à gauche, à droite, ils mettent de l'argent dans des comptes en Suisse, tout ça, mais fondamentalement, ils restent algériens. On voudrait pas un Gauleiter, c'est c'était les pantins que les nazis mettaient dans les pays, du FMI, quoi. Elle me disait, je préfère Bouteflika et sa bande, qui sont des bandits, mais au moins qui sont plutôt pour l'Algérie. Les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? Hein, un Trudeau, un machin, enfin voilà. Donc, excusez-moi de ce truc politique, mais à un moment donné, il faut mettre les pieds dans le plat. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la manifestation Place de la République, et vous avez un homme européen, caucasien, comme diraient les Américains du Nord, qui est habillé en femme, avec une jupe très, très légère, assez saillante, n'est-ce pas? Et, comment dire, épilée, les jambes étaient toute blanche, il n'y avait pas de poils, enfin, et avec les cheveux mi-longs, avec des talons, mais bon, il n'avait pas pu faire maigrir ses jambes à un point que ses genoux soient des genoux de femme, quoi. Les genoux d'homme, c'est un peu plus, hein, les hanches, même chose, et puis la carrure, bon, un rugbyman en robe, quoi, voilà. Et donc, il était là, à marcher, hein, mais avec en plus, vous savez, les hommes, au point de vue des mâchoires, c'est plus large. Oui, donc on voit un transsexuel, hein, à moins de se faire rogner les mâchoires, mais c'est des opérations terribles. Voilà, il y avait un gros problème. Et donc il traverse la place de la République en se dandinant devant des Algériens avec le drapeau algérien sur les épaules, tout ça. Et au bout d'un certain temps. Ah, il était tout content de traverser au milieu de plein de musulmans puritains qui vivent eux l'islam et l'Ancien Testament à 100% et à fond les ballons. Et donc voilà, vous avez le sultan du Bahreïn qui applique la charia année après année, et là il était au chapitre de la lapidation des homosexuels. Donc voilà, il a tourné les pages et puis voilà, donc cette année c'est là. Et donc vous avez Clooney et maintenant Elton John qui disent vous n'allez pas au Meurice, vous n'allez pas dans tous les hôtels qui ont été achetés par le sultan du Bahreïn. Du
Brunei.
Brunei. Et voilà. Et bien là, le gars, même si, voilà, il s'est fait insulter comme c'est pas possible, et à un moment donné, il y en a qui l'ont frappé. Donc là, c'est la cause nationale, donc les drapeaux sont en berne, demain, il n'y aura pas l'école. Et donc, voilà, c'est l'alpha et l'oméga de l'Occident, voilà. Eh bien, voyez-vous, on se trouve face à un peuple occidental qui rejette le bon sens. Donc, on peut toujours aller chercher les Juifs en disant, ben, voyez, regardez, ils ont été méchants avec lui, ils ont tout ça, ils n'ont pas obéi, mais c'est nous. Vous pensez bien que l'Église ne va pas vous donner tous ces textes pour stigmatiser les pharisiens et les sadducéens. Enfin, on s'en contre-moque, hein, c'était il y a longtemps. Ces textes sont pour nous. C'est clair. Et plus particulièrement pour les occidentaux. Je crois. Bon. Le Christ est rejeté par son peuple, et son peuple, c'est nous. À travers les évangiles, où nous voyons les chefs du peuple comploter pour perdre Jésus, ben, lisez le carnaval de Sarah. Et donc, apparaît le combat entre la lumière et les ténèbres. Lisez le carnaval de Sarah. L'opposition de nos intérêts matériels avec l'amour du Sauveur. Vous voyez ? Le carnaval de Sarah nous demande de prier pour qu'il n'y ait pas de schisme. Parce qu'en ce moment, si vous voulez, les classiques, les conservateurs, les traditionalistes, les intégristes, les jansénistes, les fous furieux, n'est-ce pas ? Mais non, il y a des gens tout à fait classiques qui ne veulent pas mentir ou se mentir à eux-mêmes. Et les progressistes qui partent droit devant, qui finiront à Stockholm avec une évêque qui vous présentera son épouse. Mais c'est fait. Et l'Église protestante unie de France, elle en est là. Mais au lieu de se laisser prendre par le piège de l'homophobie, prenons plutôt justement le problème du mariage des prêtres. Enfin, du mariage des prêtres. Non, je sais pas. Quoique, il y en a qui vont... Quoi ? Cet homme marié peut devenir prêtre en Occident. En Orient, n'oubliez pas que ce sont des prêtres de village et qui ne deviendront jamais évêques. Oui. Et donc, c'est des prêtres de seconde catégorie, en quelque sorte. Mais il y en a qui sont des saints, hein, et qui vivent leur identification au Christ, une persona Christi, tout à fait. Moi, je connais le chancelier maronite de l'éparchie, c'est-à-dire de l'évêché personnel des maronites de France. Ben, c'est un homme qui fait très pieux. Alors, il est en clergyman, parce qu'il est en France, mais je peux vous assurer que quand j'ai appris qu'il était marié, il devait avoir l'alliance, mais j'ai pas. Je me suis dit, eh bien voilà, c'est un maronite avec, si vous voulez, la coutume du conseil évangélique du célibat qui n'a pas été vécue en Orient comme en Occident, parce qu'en Orient c'est très important d'avoir une descendance. Donc ça a été très lourd, très fort. Il a fallu attendre les conciles d'Intrullo des années 680. Pour que les orientaux concèdent que l'évêque devait être célibataire comme le Christ, enfin marié avec l'Église, mais ils ont gardé l'ordination d'homme marié. Alors, nous, on va ordonner les diacres mariés qui rongent leurs freins depuis 30 ans, ils vont enfin pouvoir célébrer la messe, ça fera une fournée, bon. Ensuite, on va essayer de trouver des hommes mariés qui veulent devenir prêtres. Le bonhomme de 35 ans qui en a deux enfants avec sa femme, boum, 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 il va, tati, tata, il a son métier, ceci, cela. Ça va pas le faire, hein. On va cibler plutôt les 50 ans. Et puis, oui, mais bon, allez, 55, 60, voilà. Donc, on va avoir des personnes qui vont revenir sur les bancs de l'école, parce que quand même un tout petit peu de théologie, ne serait-ce qu'un peu, n'est-ce pas? Et voilà. Donc, on va se retrouver comme les diacres mariés, ça, c'est sûr. Mais le problème n'est pas là. Le problème, justement, c'est que ce que le Christ veut nous signifier par sa chasteté et son célibat, c'est qu'il est l'époux. Et que les noces de l'agneau, c'est son incarnation, et notre salut sera au-delà de notre vie terrestre. Et les paraboles parmi les plus dures, c'est bien à la fois la fête et la passion. Vous avez des paraboles où vous avez le maître du domaine qui envoie son fils. Mais vous avez aussi un roi qui va se marier, ou un roi qui marie son fils. Et ça, ce sont les paraboles les plus explicites sur la mort de Jésus-Christ. L'évangile des vignerons homicides, c'est sur le fait de la jalousie et de vouloir avoir le pouvoir temporel et accessoirement religieux. Et donc, les auditeurs sont vexés. Ils disent, le maître de la vigne demande des fruits. Il nous donne la vie, il nous donne l'existence à tous les peuples, et il nous demande de produire de belles civilisations de vie. Et on répond, plus ou moins médiocrement, plus ou moins dans l'insouciance et dans le péché. Et on ne porte pas de fruits. Et quand Dieu nous dit, portez du fruit quand même, je viens pour une petite récolte aujourd'hui, cette année. Non. On reçoit les envoyés du maître de la vigne, on les prend, on les frappe, et d'autres on les bat et on les tue. Ce sont les prophètes. Et donc, il en envoie encore, et on les prend, on les bat et on les tue. Et à un moment donné, il envoie son propre fils, le maître de la vigne. C'est quand même assez clair sur l'annonce de la Sainte Trinité, cela, hein? Parce que ce ne sont, qu'est-ce que Jésus veut leur signifier? Qu'il est plus qu'un prophète. Il est le fils du maître de la vigne. Et donc il arrive, et là, on lui dit, ils disent, jetons-le hors de la vigne. Tout prophète, comme dit Jésus, doit mourir hors de Jérusalem, dans l'opprobre, dans l'abandon. Et Jésus va être crucifié hors de Jérusalem. Jetons-le dehors et tuons-le. Parce que si on tue le fils, on aura l'héritage. Voyez. Mais là, c'est encore la brutalité, la force. Mais quand vous avez le mariage qui est signifié, vous avez les paraboles des vierges folles et des vierges sages. Il y a un mariage qui se prépare. Et vous êtes tous invités à vivre et à participer à ce mariage. Jusqu'à ce qu'il soit manifeste et éblouissant dans le festin des noces. Donc, toute votre vie, vous préparez ce mariage. Et donc, si vous travaillez, si vous êtes dans la vérité, si vous vous relevez après vos chutes, vous produisez de l'huile. Et si vous êtes complètement insouciant, vous vous en moquez d'aimer votre prochain, d'aimer Dieu, vous êtes insouciant, eh bien, vous n'avez pas d'huile. Et on doit attendre le moment du mariage parce qu'on ne sait pas le moment de notre appel pour les noces de l'agneau. Eh bien, à un moment donné, en pleine nuit, l'époux vient. On se prépare tous, et voilà que il y en a qui ont de l'huile pour traverser la nuit, pour arriver jusqu'à la salle des noces. Et d'autres, oh là là, on va aller à tâtons, on va tomber dans des trous, encore dernier, ultimement, donnez-nous de votre huile. Mais on ne peut pas vous donner de cette huile, non pas parce qu'on manque de charité, mais parce que cette huile, elle est le fruit de nos bonnes œuvres et de la grâce. Allez aux marchands. C'est qui les marchands? mais c'est tous ceux qui ont des mérites en trop. Les saints et les saintes, les martyrs, la Vierge Marie et bien sûr notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il n'est plus temps d'acheter des mérites aux autres, de demander des prières aux autres. Et quand elles arrivent, la porte est fermée. Et Dieu leur dit, mais je ne vous connais pas. Vous n'avez pas aimé pendant votre vie. Vous voudriez être heureux, mais sans amour. En fait, vous vouliez rentrer dans la salle des noces uniquement pour pas être puni, mais pas par amour. Vous avez une autre parabole. Vous avez le roi qui fête son mariage. Il envoie des invitations. Et ils disent, oh ben non, je viens de me marier, je m'occupe de mon épouse, je viens d'acheter un champ, je vais labourer mon, je vais utiliser mes bêtes. Et là, quand même, il est vexé l'épouse. Mais attendez, c'est mon mariage. Alors, il envoie à travers les champs, les routes, les villes, vous prenez tout le monde. Donc tous ceux qui étaient choisis pour être au mariage, et qui s'en sont pas trouvés dignes, c'était pas intéressant. Des personnes moins méritantes, moins dans la grâce, vont être prises. Et certaines vont se préparer à ce mariage. Oh, je suis invité à un mariage. Ouais. Et d'autres, ouais, je suis invité à un mariage, mais je vais bien manger. Ils entrent dans la salle des noces et il n'a pas l'habit. Mais l'époux lui dit, mon ami, il n'est pas là en disant, quoi? Tu t'es pas mis en costume? Dehors! Non, mon ami, pourquoi es-tu en Pékin? Pourquoi n'as-tu pas la robe des noces? Oh, je n'ai pas eu le temps, Seigneur, donne-moi une robe des noces. Et il se tait. C'est ce terrible silence du damné. Vous voyez. Il dit non, ni dans un sens, ni dans l'autre. Il se tait. Alors, devant cette sécheresse, cette dureté d'âme qui refuse l'invitation, mon ami, hein, c'est pas rien. Hein. C'est comme Jésus quand il dit à Judas, mon ami. C'est-à-dire que jusqu'à ce moment où Judas avait déjà trahi, qu'il avait déjà eu l'argent et qui Jésus l'appelle. Et lui, il est désespéré quand il le voit mourir, il jette l'argent dans le temple et il va se pendre. Oui. Eh bien, là, l'époux dit, ben, liez-le et jetez-le dehors. Il n'a pas envie, en fait, d'être à mon mariage. Vous voyez ? La robe des noces, c'est l'état de grâce, mais c'est l'amour. Et même dans la salle des noces, à la fin des temps, et qui a notre mort pour nous, Dieu lui donne encore la possibilité de se convertir. Mon ami, pourquoi tu n'as pas l'habit des noces? Et vous avez une autre parabole. Vous avez le roi qui veut marier son fils et qui dit aux villes, voilà, c'est le mariage de mon fils. Et les villes du royaume, on le veut pas. Y a une idée de mariage, je crois, même dans cette parabole. Mais il y a aussi la parabole où c'est un fils de roi qui prend possession de son royaume, mais qui ne vient pas tout de suite. Et alors qu'il n'est pas encore là, les villes disent « Non volumus eum regnare super nos ». Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Et c'est ce refus du royaume de Dieu, c'est de ce refus, mais de quoi? Si Jésus encore, voyez-vous, dimanche dernier, vous avez la multiplication des pains et Jésus refuse le pouvoir temporel. Les rois catholiques, les rois chrétiens avaient l'obligation d'appliquer les 10 commandements, l'obligation d'appliquer les béatitudes. Ce n'étaient pas des rois pour être des rois, ça devait être des rois chrétiens. C'était des lieutenants du Christ d'un point de vue de l'autorité temporelle. Et les papes, lorsqu'ils avaient les états pontificaux, c'était pour aider à l'apostolat et à l'évangélisation. Ils n'avaient pas des richesses immenses, des territoires immense, mais suffisamment pour avoir, si vous voulez, pour nourrir leurs œuvres, normalement. C'est pour ça qu'un homme comme Pie IX, au lieu de, ne va pas dire, oh ben vous savez, bon, c'est vrai, on a trop de richesses, on a trop de terres, je vous les cède. Le pape ne doit avoir un pouvoir plus spirituel que temporel. C'est pas aussi évident que ça, hein. Si vous voulez, les états pontificaux ont été quand même spoliés. C'est comme si on disait à un monastère, mais bon, vous êtes des moines, donc limitez-vous à votre monastère et relâchez vos champs. Ah non, les champs ont été donnés au monastère pour l'élevage, pour cultiver et pour qu'ils puissent être autonomes. Mais c'est une richesse d'avoir un champ, c'est une richesse d'avoir des bêtes. Ben oui, mais c'est une richesse pour vivre, pas pour abuser. Et donc, Dieu, à travers les siècles, a puni son clergé, c'est Christ, à chaque fois qu'ils ont exagéré en matière d'argent, et de pouvoir, et de train de vie. Il nous a purifiés souvent. Et la purification de la Révolution française, en 1789-1791, a été extrêmement brutale, à la mesure d'un Talleyrand. On dit, ah oui, mais c'était la coutume, vous comprenez, dans les familles, vous aviez le cadet qui devenait évêque pour les grandes familles. Ben oui, mais c'était une catastrophe. Et on l'a payé extrêmement cher. C'était pas évangélique. Mais si, il y en a qui ont été de saints évêques. De saints évêques. Oui, peut-être, mais c'était au petit bonheur la chance. Mais non, comment vous dites ça, c'est au petit bonheur la grâce. Ah oui, mais quand même, hein, il faut pas tenter Dieu non plus. Oui. Ainsi donc, dans ce temps de la Passion, nous sommes donc concernés directement. C'est tout le mystère de la liberté de l'homme et de son refus de Dieu. Troisième thème, le Christ persécuté prie son Père de ne pas l'abandonner. Sa plainte s'élève à travers tous les champs de cette quinzaine de la Passion. Et avec lui, c'est la prière de toute l'Église qui se fait entendre. Elle qui souffre encore persécution pour sa fidélité à son maître. Et là, voyez-vous, quand vous lisez la liturgie, c'est vraiment très fort. C'est une plainte. Plainte de l'innocent. Ou plainte de celui qui est pécheur, mais qui veut se sortir de son péché, qui est sorti de son péché, qui veut pas retomber, et qui est accablé de fatigue, de tentation et de persécution. Voyez, le roi David était un saint à sa façon, repenti, relevé, rechuté, relevé. Eh bien, voyez-vous, lorsqu'il est en état de grâce, le roi David veut y rester. Et il se plaint. Et il se plaint contre ses passions. Et il se plaint contre son prochain qui veut le tenter. Et il se plaint contre le démon. Nous, on a tendance à mettre sur le démon ou sur l'extérieur beaucoup de choses. Mais nous sommes nous-mêmes faibles et ces prières de plainte, en ce qui concerne le pécheur, ce sont des plaintes contre nous-mêmes. On demande à Dieu de nous aider, de nous sortir de notre propre persécution de faiblesse. Mais c'est aussi la plainte actuellement de l'Église. On prend tous les pécheurs publics de l'Église, les prêtres criminels et autres, et on ne parle que d'eux, on ne parle que d'eux, et on ne parle que d'eux, mais à un moment, on n'en peut plus. Mais attention, hein, le fait qu'ils mettent le projecteur sur ces Algériens qui ont frappé un transsexuel, c'est que le tour des musulmans vient. Faites attention, s'ils font venir tous ces migrants, c'est pas par charité chrétienne, comme le souhaiterait le pape François. C'est pour la zizanie. C'est pour qu'à un moment donné, on puisse plus se supporter les uns les autres. Et qu'on se déteste, que le racisme augmente, que la xénophobie augmente, et qu'enfin, on dise aux imams, mais bon, on a fait les ruptures du jeûne du Ramadan à Lille, Madame Aubry, qui est une grande musulmane devant l'Éternel, qui porte le voile tous les jours, qui hésite au niqab chaque semaine, vous voyez. Mais au conseil municipal de Lille, pas terrible, ouais, elle arrive, boum. Oh. Même avec des gants. Une tentation de Martine Aubry. Hein. C'est pas connu, hein, mais je vous le révèle ce soir. Mais elle le fait, des cérémonies, tout ça, quand vous avez la communauté musulmane de Lille, qui rompt le jeûne pour la fête de l'Aïd, elle est là. Et, mais à Pâques, elle va pas aller à la cathédrale. Ce sont des pédophiles. Ouais. Hein. En ce qui concerne des crimes, vous en avez dans toutes les catégories de la société, dans des familles, et principalement dans des familles. Eh bien, voyez-vous, l'Église, là, elle est sous un bombardement terrible, et vous avez le pape, là, dans l'avion, vous savez, c'est le magister ex aero. Les réponses aux journalistes, quand le pape revient, où va, c'est absolument terrible. Et donc, mais là, pour le coup, on lui dit, mais alors pourquoi vous n'avez pas accepté la démission du cardinal Barbarin? Et là, le pape François, il a eu quelques conseillers qui ont dit, mais c'est franco-français cette histoire. Il y avait deux choses. L'Église a horreur du scandale. Le fait du grand scandale et des millions d'euros qui ont été investis dans le film sur la phrase malheureuse du cardinal Barbarin, grâce à Dieu, les faits sont prescrits. Mais en effet, les victimes étaient majeures depuis plus de 20 ans. Donc, qu'il dénonce pas à la police, il n'a pas à dénoncer. Votre voisin n'a pas, votre voisin ne peut pas vous faire condamner pour pas avoir porté plainte à sa place pour un cambriolage. Ça, vous avez les policiers, ils vont vous regarder. J'ai peur que mon voisin me fasse condamner pour non dénonciation de crime. Et donc, je voulais vous dire qu'il a été cambriolé. Et là, le policier, il vous dit, mais c'est à votre voisin de venir porter plainte pour ce cambriolage. Ah bon? Ben oui, il est majeur, vous ne sentez pas cette obligation. Et alors là, c'est comme c'est des crimes absolument atroces. Vous avez des mineurs qui ont été abusés. Alors, mais si vous voulez, le cardinal Barbarin arrive et dit, voilà, le petit Alfred a été violé à l'âge de 10 ans. Ah, et alors, en 1970, et il a quel âge Alfred actuellement? Ben il a 50 ans. Ben c'est pas à vous de porter plainte. Enfin de, maintenant il a l'âge. Vous n'avez aucune, vous n'avez pas de voie de juridique pour dénoncer ces crimes. Et en plus ils sont prescrits. Voilà ce qu'a répondu le commissariat, enfin le procureur de la République, enfin la poursuite pénale. Et donc, lorsqu'ils ont fait tous ces actes-là, juridiquement, c'était sans raison, sans cause. Et quand le tribunal de grande instance a condamné le cardinal Barbarin, les victimes elles-mêmes qui avaient fait une association avec tout le pouvoir et les moyens qu'ils ont, ils sont tombés de la chaise. Ah bon, ils l'ont condamné, procureur de la République, eux. Et donc il a fait appel. Et le pape François dit, juridiquement ça n'a pas de sens, on ne peut pas dire qu'il est condamné. D'abord on a fait appel. Et en plus il n'y a aucun fond juridique. Par contre, que le cardinal Barbarin devait ne pas écouter son conseil épiscopal quand il est devenu archevêque de Lyon, de dire, mais où sont les problèmes? Où sont les cadavres dans les placards? Il y en a un là, il y en a un là, ouvrez, hop! Voilà. Lui, il est mort, il est vraiment mort. Mais l'autre, il est vivant. Eh ben, monastère. Ah, mais vous comprenez, ça fait déjà 25 ans qu'il est encore curé, qu'on le met de cure en cure. Ben oui, mais moi, je pense qu'on est en 2012 ou 2015, je sais plus, mais c'est pas raisonnable de l'avoir déplacé. Oui, mais vous avez trois évêques avant vous qui l'ont fait. Mais ils sont morts. Et, enfin, toutes ces maladresses font que... Mais la passion de l'Église actuellement, c'est l'attaque excessive contre les péchés des hommes et des églises et des baptisés. Vous avez, si vous vous intéressez à ces choses-là, vous avez 6 000 abus sur mineurs par an en France. Entre 20 et 30 enseignants qui sont licenciés de l'éducation nationale par an. Sans compter ceux qui ne le sont pas encore et qui ne le seront peut-être jamais. Vous n'aurez jamais, grâce à Jules Ferry comme film, c'est le recteur d'académie ou le ministre de l'Éducation nationale. Oh, grâce à Jules Ferry, les faits sont prescrits. Et donc tout ça, voyez-vous, c'est une attaque contre quoi? Ben, contre la morale de l'Église, contre la morale naturelle et contre la foi. Troisième point du temps de la Passion, c'est le Christ fait de cette persécution le moyen de notre salut. Vous voyez, il y a vraiment trois thèmes très forts dans la Passion, dans le mystère pascal. C'est d'une part le rejet de Dieu, d'autre part l'indifférence, la jalousie, voyez-vous, et notre responsabilité. D'autre part, c'est la plainte de l'innocent ou la plainte du pécheur qui ne veut pas retomber dans le péché. Donc vous avez d'abord le rejet de Dieu, le rejet de la présence de Dieu, le rejet de l'amour de Dieu fort. On attaque le pécheur en disant tu rejettes Dieu, tu rejettes l'agneau de Dieu, tu rejettes l'enfant de Bethléem, tu rejettes l'enfant Jésus, tu rejettes le Messie qui guérit, qui ne fait pas de mal et qui pardonne les péchés. Je le rejette. Deuxième point fort spirituel, c'est celui qui est injustement persécuté ou le pécheur qui est injustement persécuté par ses tentations et qui veut se sauver. Et le troisième, si vous voulez, thème spirituel de la Passion, c'est que finalement cette souffrance est méritoire, non seulement pour l'agneau de Dieu innocent, mais aussi pour les pécheurs. C'est-à-dire que les pécheurs qui se confessent, les pécheurs qui se battent contre leurs péchés, vont être pardonnés, vont avoir des grâces, voyez. C'est extraordinaire de se dire que il y aura une récompense, il y aura une victoire après ce combat spirituel. Parce que vous pouvez quand même, pendant votre carême, ne pas penser à la crise de l'Église, aux méchants évêques, aux méchants prêtres, aux méchants journalistes, aux ennemis de l'Église catholique. Vous pouvez aussi penser à votre sanctification. Ça peut être utile, de manière première. Et donc votre sanctification, c'est un combat contre vous-même et une victoire. Voyez, une victoire. Le Christ fait de cette persécution le moyen de notre salut. Jésus a accepté son sacrifice, il a dit oui à la croix, il l'a embrassé, et comme le chante l'hymne des Vêpres, ce mystère de la croix sur laquelle la vie a souffert la mort, par la mort a produit la vie.